Alors, je vous propose d'ouvrir vos Bibles. Et nous lisons donc dans l'évangile de Jean, chapitre 1, les versets 19 à 34. Et on peut trouver ça sur la page 687 dans nos Bibles. Jean chapitre 1 et à partir du verset 19. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Toi qui es-tu ? » Il déclara et sans restriction affirma « Moi, je ne suis pas le Messie. » Ils lui demandèrent « Qui es-tu donc ? Es-tu Élie ?» Et il dit « Je ne le suis pas. Es-tu le prophète ?» Et il répondit non. Ils lui dirent « Alors qui es-tu ? Nous devons donner une réponse à tous ceux qui nous ont envoyés. » « Que dis-tu de toi-même ? » ?»« Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, rendez le chemin du Seigneur droit, comme l'a dit le prophète Ésaïe. » Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent alors encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, mais il m'a précédé. Et je ne suis pas digne de détacher les courroies de ses sandales. » Cela se passait à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit « Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. C'est celui à propos duquel j'ai dit « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. Pour ma part, je ne le connaissais pas. Mais c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit aussi ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. »
Merci beaucoup Yann. J'aimerais m'associer à l'accueil que vous a souhaité Benoît en ce lendemain d'un jour très sombre pour la France. On ne va pas s'arrêter là-dessus. Voilà, c'est un peu gros venant dans l'anglais, mais bon. Voilà, l'hypocrisie, c'est une spécialité anglaise. Je vous propose de garder Jean 1 ouvert devant vous. Voilà. David Icke, le voici, était gardien du club de football anglais Coventry City, qui joue aujourd'hui en Ligue 3 anglaise. Et en 1991, sa carrière sportive terminée, David Icke a décidé de tenir une conférence de presse au cours de laquelle il a fait une annonce très particulière. David Icke a déclaré devant la presse être le Fils de Dieu. Il a dit qu'il recevait des messages de Dieu et que pour être sûr de bien recevoir ces messages, il fallait qu'il ne s'habille qu'en turquoise. Et bizarrement, pas grand monde ne l'a cru. D'autres exemples sont plus tragiques. Vous avez peut-être entendu parler de David Koresh. David Koresh, cet Américain qui a fondé une secte aux États-Unis en prétendant être un prophète envoyé par Dieu, et qui est mort avec 82 autres personnes dans une fusillade avec des agents de la FBI. Et là encore, je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui grand monde qui croit que David Koresh est celui qui prétendait être. Et Jésus, alors, qu'est-ce qui le distingue d'un David Icke ou d'un David Koresh? Quelle raison avons-nous de croire en lui? Le mois dernier, nous avons commencé une nouvelle série sur l'évangile de Jean, et avec Benoît, nous avons regardé la très célèbre introduction de ce livre, son prologue. Et c'est un très beau texte que Benoît a résumé de la manière suivante. L'éternel Dieu est vraiment venu parmi nous pour une relation de famille. L'éternel Dieu est vraiment venu parmi nous pour une relation de famille. Venu parmi nous, comment? Eh bien, en un homme, Jésus, Ce qui a une implication énorme. Connaître cet homme Jésus, c'est connaître Dieu. Si je connais Jésus, je connais Dieu. Mais comment est-ce que Jean est arrivé à cette conclusion? Et nous, pourquoi le croire? Comment est-ce que nous aussi, nous pouvons arriver à la même conclusion? Et si nous croyons déjà, comment être sûr que nous ne sommes pas trompés? Comment être sûr que Jésus, cet homme né il y a 2000 ans, est vraiment celui que Jean prétend qu'il est, Dieu venu parmi nous? Eh bien, pour répondre à cette question, Jean va nous présenter ce qu'il appelle des témoins. Je ne sais pas si quelqu'un ici a déjà été appelé comme témoin dans une affaire judiciaire, mais si c'est le cas, c'est sans doute parce qu'on a estimé que vous étiez en mesure d'apporter un certain éclairage sur une question particulière. Et c'est la même chose ici. Le premier témoin que Jean va faire intervenir pour nous apporter son éclairage, c'est Jean-Baptiste. Et c'est là le fil conducteur de ce texte. Alors, regardez le verset 19. Le passage commence par « Voici le témoignage de Jean-Baptiste ». Et puis le dernier verset, le verset 34, il se termine avec ce témoignage très fort de Jean-Baptiste. « J'ai vu et j'atteste, littéralement, j'ai témoigné qu'il est le Fils de Dieu. » Le témoignage, c'est le cœur de ce texte. Mais s'il y a un verset clé qui résume le propos de l'auteur, je pense que c'est le verset 31. Regardons-le ensemble. Verset 31, Jean-Baptiste dit, « Pour ma part, je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas Jésus. Pour ma part, je ne le connaissais pas, mais c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Autrement dit, ce texte va nous montrer comment Jean-Baptiste est passé d'une position d'ignorance concernant Jésus, vu comme un homme, comme les autres, vers une position de confiance, où il peut dire « J'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. » Il va nous montrer ce qui a fait évoluer le regard de Jean-Baptiste sur Jésus. Et peut-être que vous aussi vous diriez de Jésus « Je ne le connais pas. » En tout cas, pas en tant que Dieu venu parmi nous. Vous avez besoin d'être convaincu. Et c'est tout à fait légitime. Et en fait, Jean a écrit son évangile pour nous convaincre. Et donc, mon objectif, son après-midi, c'est de nous encourager tous à mener notre propre enquête, à évaluer pour nous-mêmes les éléments que nous avons dans la Bible, à écouter les témoins et à nous poser des questions. Est-ce que ces témoins sont crédibles? Sur quoi est-ce qu'ils basent leur témoignage? Est-ce que je peux leur faire confiance? Et puis, qu'est-ce que ça voudrait dire pour moi de reconnaître pour vrai leur témoignage, ce qu'ils ont dit? Donc, je vous invite à vous pencher sur ce premier témoignage, celui de Jean-Baptiste, que je vous propose d'étudier en trois temps. Versets 19 à 28, le portrait robot. Versets 29 à 31, la personne et son projet. Et versets 32 à 34, la preuve. Notre passage cet après-midi commence avec un peuple dans l'attente. Les faits se déroulent il y a à peu près 2000 ans. Et à cette époque, le peuple juif est dans l'attente d'un libérateur, d'un leader qui, avec l'aide de Dieu, doit les délivrer de leurs ennemis et les conduire dans l'obéissance à Dieu. Ils appelaient ce libérateur le Christ, celui que Dieu devait désigner pour accomplir sa mission. Et ça faisait des siècles qu'ils l'attendent. Et puis arrive Jean-Baptiste, et il commence à faire parler de lui. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste appelle le peuple à changer de vie, à revenir à Dieu. Et le signe qu'il donne pour symboliser ce changement, c'est le baptême, ce symbole d'un nouveau départ. D'où le nom qu'on lui donne, Jean-Baptiste. Et énormément de personnes répondent à cette invitation. Et donc, si vous allumiez la télévision à cette époque, BFM TV serait sur place avec Jean-Baptiste en train de filmer les foules qui vont vers lui. Jean-Baptiste, c'est le nom sur toutes les lèvres. Et du coup, on commence à se poser des questions. Est-ce que Jean-Baptiste ne serait pas ce libérateur qu'on attend? Et donc, les chefs du peuple, soucieux de savoir qui est cette personne qui ameute les foules, dont le taux de popularité est meilleur que le leur, envoie une délégation lui poser la question « Qui es-tu ? Qui es-tu ?» On peut imaginer l'ambiance quand la délégation arrive pour poser cette question. Les micros sont tendus vers Jean-Baptiste, les caméras braquées sur lui. Tous sont pendus à ses lèvres. Et puis il répond, « Je ne suis pas le Christ. » Quelle déception! Mais les responsables religieux poursuivent l'interrogatoire. Ils commencent à citer les noms d'autres personnages que le peuple juif attendait. « Es-tu Élie ?»« Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète ?»« Non. » Alors, il faut dire que si vous êtes journaliste, Jean-Baptiste n'a pas été un très bon client jusqu'ici. Trois réponses négatives et enfin la délégation, exaspérée, lui demande « Mais qui es-tu donc ?» Et c'est là que la réponse de Jean-Baptiste peut paraître un peu énigmatique. Verset 23, « Moi, je suis celui qui crie dans le désert, rendez droit le chemin du Seigneur. » Alors, cette réponse un peu étrange est en fait une citation d'un livre de l'Ancien Testament, le livre du prophète Ésaïe. Et en citant ce livre, écrit 700 ans avant Jésus, Jean nous livre, si on veut, le portrait robot du libérateur promis. Vous savez comment fonctionne un portrait robot. J'ai essayé d'imprimer un exemple sur vos tables. Certains se sont demandé tout à l'heure si c'était pas le portrait robot de Jean-Baptiste lui-même. Je pense qu'il était bien plus poilu que ça. Dans un portrait robot, on réunit les traits distinctifs d'une personne qu'on cherche à identifier pour en arriver à une image qui, normalement, sera pas trop loin de la réalité. Et de la même manière, à partir d'Ésaïe, Jean-Baptiste va nous livrer le portrait robot, non pas d'un criminel, mais du Christ. Donc on va regarder ensemble. Donc je vous propose de tourner à la page 467 dans les Bibles que vous avez devant vous. 467, livre d'Ésaïe. Je vous préviens qu'on va passer pas mal de temps dans Ésaïe aujourd'hui. Ésaïe, chapitre 40, page 467. Ésaïe 40, et je vous propose de lire à partir du verset 3. Une voix crie dans le désert, « Préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline abaissée, ce qui est tortueux sera redressé, et les endroits rocailleux aplanis. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, tout homme la verra. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. » Alors, en citant ce texte, Jean-Baptiste est en train d'affirmer trois choses. Premièrement, celui pour qui il prépare le chemin fera rayonner la gloire de Dieu. Le peuple s'était demandé si ce n'était pas Jean-Baptiste, le libérateur promis, mais en fait, leurs attentes étaient bien trop modestes. Jean-Baptiste annonce qu'il prépare le chemin. De qui? Vous avez peut-être remarqué au verset 3, de l'Éternel. Donc le libérateur qu'ils attendent ne sera pas juste un chef comme un autre, il sera Dieu lui-même. Deuxième chose, l'arrivée de ce libérateur est imminente. J'ai vécu plusieurs années à Paris, et parfois à Paris, on voit des voitures ministérielles qui foncent, on suppose, pour aller emmener un ministre à une réunion importante. Peut-être pas juste parce qu'ils ont envie de rentrer chez eux, mais donnons-leur le bénéfice du doute. Et pour préparer leur chemin, il y a des policiers en moto qui roulent devant eux et qui sifflent leur arrivée. Et quand on les voit, c'est à coup sûr quelqu'un d'important qui arrive derrière. Jean-Baptiste est un peu comme un de ces policiers. Il est là pour annoncer que l'arrivée de ce leader divin est imminente. Il reprend les mots du verset 3 pour se présenter lui-même comme cette voix qui crie dans le désert. L'attente est terminée. Il arrive juste derrière. Ça faisait des siècles qu'il attendait, et maintenant, le moment est enfin venu. L'arrivée de ce libérateur est imminente. Et troisième chose, ce libérateur vient accomplir une œuvre de salut d'une échelle inédite. Je vous propose de regarder un petit peu plus loin, au verset 11 du texte d'Ésaïe. Ésaïe 40, verset 11. Et Ésaïe dit ceci. « Pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras, les portera contre sa poitrine. Il conduira les brebis qui allaitent. » Voilà une, une très belle image. Dieu, le berger, qui vient rassembler un peuple qui s'est égaré et dispersé. C'est une métaphore qu'on trouve à plusieurs reprises dans la Bible. Le peuple d'Israël, et de manière plus générale, toute l'humanité, comme un troupeau de brebis qui s'est égaré loin de Dieu, en se rebellant contre lui, en lui tournant le dos, et qui finit par se retrouver totalement perdu. Alors ici, Jean-Baptiste affirme que le libérateur vient sauver et rassembler les brebis perdues. Il va les ramener chez eux. Voilà donc le portrait robot que Jean-Baptiste nous donne pour identifier ce Christ. Il fera rayonner la gloire de Dieu, son arrivée est imminente, et il vient accomplir une œuvre de salut d'une échelle inédite. Deuxième point, la personne et son projet. Imaginez que vous faites partie de la délégation venue voir si Jean-Baptiste est ce libérateur promis. Vous seriez sans doute un peu déçu. L'annonce que vous espériez n'a pas eu lieu. Et la question se pose à nouveau. Qui est en fait ce libérateur? Vous décidez de prolonger votre séjour et c'est le lendemain qui a le véritable scoop. Jean-Baptiste voit venir lui un certain Jésus de Nazareth. Alors, est-ce que vous avez déjà eu à présenter quelqu'un que vous admirez beaucoup, peut-être un héros personnel? Imaginez que vous marchez dans la rue avec un ami qui ne connaît rien du tout au rugby et que vous voyez Thierry Dussautoir, capitaine de l'équipe de rugby française. Je sais que c'est un sujet un peu sensible aujourd'hui. Comment est-ce que vous allez le présenter? Est-ce que vous allez parler du nombre de titres qu'il a gagné en équipe nationale? Est-ce que vous allez parler du fait que le week-end dernier contre l'Irlande, il a réussi plus de plaquages que tout le reste du 15 de France réuni? Est-ce que vous allez parler de ses exploits pour son club, le Stade Toulousain? Sur quoi est-ce que vous allez vous focaliser? Alors, comment Jean-Baptiste va-t-il nous présenter, pas simplement quelqu'un qu'il admire beaucoup, mais celui qui est le libérateur pour qui il avait préparé le chemin? D'une manière qui correspond aux attentes des gens de l'époque, comme un chef militaire, comme quelqu'un qui va mettre les envahisseurs dehors? Eh bien non. Jean-Baptiste va plutôt prendre son portrait robot, les trois distinctifs qu'on a vus, et les appliquer à Jésus. Commençons par le deuxième des traits qu'on a évoqués. Son arrivée est imminente, et maintenant, Jean-Baptiste dit, il est là. Il est là. On verra tout à l'heure que ce n'était pas la toute première rencontre entre Jésus et Jean-Baptiste, mais quand même, imaginez l'émotion. Cette personne pour qui toute la vie de Jean-Baptiste avait servi de préparation, la voilà. Jean-Baptiste dit, c'est à son sujet que j'ai parlé. Il est là. Ensuite, le libérateur devait faire rayonner la gloire de Dieu lui-même. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Et c'est un petit peu plus compliqué. Alors, accrochons-nous deux secondes et regardons le verset 30. Verset 30. Jean-Baptiste dit, après moi vient un homme qui m'a précédé. Autrement dit, il est plus important que moi. Parce que il existait avant moi. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il existait avant moi? Eh bien, c'est une manière de dire que Jésus est Dieu, celui qui existe depuis toujours. Avant même que Jean-Baptiste existe, il existait. Avant même que nous existions, il existait. Avant nous, il était. Et le premier verset de l'évangile de Jean dit « Au commencement était la parole ». Et ensuite, il dit « La parole était Dieu ». Donc Jean-Baptiste nous annonce que ce Jésus qui voit venir vers lui, c'est en fait Dieu fait chair. Enfin, le libérateur venait pour une œuvre de salut. Jésus va sauver les gens de leurs péchés en se sacrifiant lui-même. Verset 29. Le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus s'approcher de lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Qu'est-ce que ça veut dire? L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors, je vous propose de revenir à Ésaïe, page 476 cette fois-ci. Ésaïe 53, page 476. Et l'allusion faite à ce passage d'Ésaïe est là pour nous montrer que la mort en sacrifice de Jésus-Christ à la croix avait déjà été annoncée 700 ans plus tôt. Lisons ensemble les versets 6 et 7. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Dans l'Ancien Testament, on trouve des agneaux un peu partout. Mais à chaque fois qu'on trouve un agneau, il est toujours là pour être tué, pour être sacrifié. Alors ici, des siècles avant Jésus-Christ, Ésaïe présente le libérateur que Dieu devait envoyer sous les traits d'un agneau qui va mourir en sacrifice pour en épargner d'autres. Il reprend l'image des brebis perdues que nous avons vues tout à l'heure. Il annonce que le libérateur promis va les ramener en s'offrant lui-même en sacrifice pour elles. Comment ? Eh bien, en subissant lui-même le jugement que nous méritons tous pour notre rébellion contre Dieu. Et donc, 700 ans après qu'Ésaïe a écrit ce texte, Jean-Baptiste voit Jésus venir vers lui et il dit, c'est lui qui va faire ça. Voilà la personne et voilà son projet. Enfin, troisième point, la preuve. Alors, si je vous annonçais que Benoît Angèle, ici présent, était le meilleur joueur de rugby que le monde ait jamais connu et que s'il n'a pas joué hier, c'était pour ne pas humilier les All Blacks. Bon, ça aurait été pas mal en fait. Mais comment est-ce que vous allez réagir? Vous allez certainement me demander ce qui me permet d'affirmer quelque chose d'aussi énorme. Parce que, bon, en le regardant, on se pose des questions. Mais bon, peut-être qu'il cache des secrets. On peut se poser la même question par rapport à Jésus. Qu'est-ce qui permettait à Jean-Baptiste d'affirmer que Jésus était le libérateur attendu? Il avait son portrait robot, ça nous le savons, mais qu'est-ce qui lui permettait de dire que c'était Jésus qui correspondait à ce portrait robot? Parce que dans le passage, on a juste l'impression que Jean-Baptiste voit Jésus passer et puis il dit « c'est lui ». Mais sur quoi est-ce qu'il se basait? Qu'est-ce qui lui permettait de dire ça? Qu'est-ce qui lui permettait de dire que cet homme-là était celui qu'on attendait depuis des siècles? Alors tout à l'heure, nous avons évoqué le concept de témoignage. Et ici, c'est intéressant de constater que nous avons un témoignage, mais en deux temps. En deux temps. D'abord, Dieu témoigne, ensuite, Jean-Baptiste témoigne. Notons que Jean-Baptiste, on l'a dit tout à l'heure, dit à deux reprises qu'il ne connaissait pas Jésus. Il le dit au verset 31 et encore au verset 33. Alors, ça ne voulait sans doute pas dire que Jean-Baptiste n'avait jamais rencontré Jésus, parce que on sait, on apprend ailleurs dans les évangiles qu'ils avaient un lien de parenté. Et ça voulait sans doute dire que jusque-là, Jean-Baptiste ne savait pas que Jésus était ce libérateur promis. Alors, il allait falloir un événement très particulier pour que Jean-Baptiste reconnaisse Jésus pour qui il était. Et c'est bien ce qui s'est passé quelque temps auparavant, lors du baptême de Jésus. Alors, moi-même, je me suis fait baptiser quand j'avais 14 ans, et je peux vous dire qu'à aucun moment, il ne s'est passé quelque chose comme ce qui se passe ici. Quand Jésus descend dans l'eau pour être baptisé, Jean-Baptiste voit l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe. Dieu avait dit à Jean-Baptiste, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. » Et encore une fois, c'est l'Ancien Testament qui nous permet de comprendre cet événement. Dernière citation d'Ésaïe, page 469, Ésaïe 42, page 469, Ésaïe 42. Et toujours en parlant de ce libérateur promis 700 ans en avance, Ésaïe dit ceci, et c'est Dieu qui s'exprime. Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation. J'ai mis mon esprit sur lui. Donc, quand Jean-Baptiste voit l'Esprit Saint descendre sur Jésus, c'est pour lui le signe, on ne peut plus clair, que Jésus est ce roi par excellence, ce libérateur, Dieu lui-même, celui qui a été promis. Et dans ce passage de l'Évangile de Jean, c'est Dieu lui-même qui le dit, qui en atteste en envoyant son esprit. C'est Dieu qui témoigne. Il y a quelques années, j'ai passé une semaine en Israël, Et là, on m'a parlé de ce que certains psychiatres appellent le syndrome de Jérusalem. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Le syndrome de Jérusalem atteint des gens qui visitent la ville de Jérusalem et qui sont tellement bouleversés par son caractère historique que de manière soudaine, ils craquent. Et le plus souvent, ils se réveillent au milieu de la nuit, ils prennent les draps de leur lit, ils se font une toge, ils montent sur les murailles de la ville et ils proclament qu'ils sont le Messie. Quelle est la valeur de cette proclamation? Aucune, évidemment. C'est juste un coup de folie. Et la preuve, au bout d'une semaine, généralement, la personne revient à la raison et elle ramène les draps à l'hôtel. Mais ici, quand l'Esprit-Saint descend sur Jésus, c'est Dieu lui-même qui montre à Jean-Baptiste, c'est lui. C'est lui celui que tu attendais. Dieu témoigne. Et ensuite, Jean-Baptiste lui-même témoigne. Il dit, moi-même, verset 34, moi-même, j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. J'ai vu. Pas j'ai déduit, pas j'ai tiré la conclusion, encore moins j'ai rêvé, mais j'ai vu. Parmi les quatre évangiles, l'évangile de Jean est sans doute celui qui insiste le plus sur l'importance du témoignage oculaire, ce que des gens ont vu de Jésus. Et ici, Jean-Baptiste est en train de dire, j'ai vu de mes propres yeux que Dieu lui-même a témoigné en faveur de Jésus. Il a témoigné de sa véritable identité. Et j'en témoigne à mon tour. On peut être marqué par le caractère très terre-à-terre de cette déclaration. Jean-Baptiste dit, j'ai vu et donc j'ai cru. Peut-être que vous êtes du genre naturellement sceptique. Vous ne croyez qu'à ce qu'on peut vérifier de ses propres yeux. Je pense que Jean, qui a écrit cet évangile, aurait un certain respect pour cette attitude parce que pour lui, c'est justement très important que ce qu'on croit à propos de Jésus repose sur des faits objectifs et vérifiables. Et ce thème du témoignage oculaire, le fait que les actes de Jésus ont été vus, la mort de Jésus a été vue, la résurrection de Jésus a été vue, eh bien, il sera développé tout au long de l'évangile de Jean. Dieu témoigne que Jésus est Dieu parmi nous. Jean-Baptiste témoigne que Jésus est Dieu parmi nous. Et nous, son témoignage, nous l'avons. Mon objectif cet après-midi était de nous encourager à mener l'enquête pour nous-mêmes. Nous avons interrogé un premier témoin, Jean-Baptiste, et nous avons vu que son témoignage repose premièrement sur le portrait robot fourni par l'Ancien Testament, et ensuite sur ce qu'il a vu de ses propres yeux. D'autres témoignages suivront, et nous aurons l'occasion de les évaluer au cours de nos rencontres à venir. Mais la question à laquelle j'aimerais vous inviter à réfléchir d'ici là, c'est celle-ci. Que pensons-nous de ce premier témoignage? Quel est notre verdict? Je vais repasser la parole à Will, et vous aurez l'occasion de discuter autour de vos tables. Ou à Benoît, peut-être, plutôt.
Merci Joe. N'hésitez pas à vous resservir. Quelques questions de discussion sur vos feuillets et je vous propose d'y passer une vingtaine de minutes.